Et bienvenue du coup dans cette série qu'on continue sur le livre de l'Exode. Si vous nous rejoignez juste maintenant, on a commencé une série de prédications dans le livre de l'Exode, le deuxième livre de la Bible. Et c'est une série qu'on a résumée par la phrase « Le Dieu qui veut demeurer avec nous ». Donc, le Dieu qui veut demeurer avec nous. On a traversé, il y a deux semaines, pour ceux qui étaient là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a deux semaines, on a traversé les neuf premiers fléaux de l'Égypte, les neuf premiers fléaux que l'Éternel Dieu fait subir, fait s'abattre sur l'Égypte. Un bras de fer, en fait, entre l'Éternel et entre Pharaon. Et à travers ces neuf fléaux, on a vu comment l'Éternel Dieu, celui qui est, a montré sa supériorité sur tous les domaines de la création, sa supériorité sur les magiciens de Pharaon, sa supériorité sur Pharaon lui-même. Et ce Dieu, si vous vous rappelez aussi un petit peu plus en amont d'Exode 3, ce Dieu qui a entendu, ce Dieu qui a vu et ce Dieu qui est descendu, va maintenant, en guise de dixième fléau, aller et parcourir l'Égypte. Aller et parcourir l'Égypte pour apporter son jugement sur le peuple égyptien, sur Pharaon, mais aussi aller et parcourir l'Égypte pour apporter la mort. Et pour commencer, j'aimerais vous partager une petite anecdote, une anecdote fictive, pour qu'on essaye de se replonger un peu il y a 3500 ans. Donc je vous présente David et Daniel. David et Daniel, c'est deux Israélites qui ont vécu il y a 3500 ans. Et Daniel, il s'interroge un peu. Parce qu'avec David, ils viennent de voir quand même s'abattre neuf fléaux. Alors à l'annonce du dixième fléau, Daniel, il a un petit peu peur. Parce que jusque-là, il voyait Dieu qui agissait à travers Moïse. Mais là, Dieu va venir et va parcourir l'Égypte. Alors voilà ce que dit Daniel. Il s'adresse à David. David, tu le sens comment, toi, cette dixième plaie, ce dixième fléau? Alors David, lui, un peu plus sûr de lui. Moi, je le sens bien. Notre Dieu va venir juger les Égyptiens. Il va nous libérer. Pourquoi t'as peur, toi, Daniel? Bah, c'est notre Dieu, quand même, David. C'est le Dieu saint. Il va venir exercer son jugement, alors comment on va faire pour se tenir devant lui, nous? David y répond, oui mais tu sais, c'est le Dieu saint, mais il nous aime. Il nous aime, on est son peuple, il l'a promis. Tu ne dois pas oublier les promesses, Daniel. Ben, j'oublie pas David, mais c'est quand même l'Éternel. C'est celui qui est, c'est le Dieu saint, qui s'est révélé à Moïse, qui lui a dit, retire tes sandales. Et c'est ce Dieu-là qui va venir pour exercer son jugement. Moi, j'ai un peu peur. Comment je pourrais me tenir, moi, le petit Daniel, dans la présence de Dieu? Alors, je crois que c'est une question qu'on peut en fait tous se poser, un peu comme Daniel. Et pourtant, parfois, quand les gens s'imaginent devant Dieu, s'imaginent des fois plutôt l'inverse. Comment Dieu va-t-il justifier la souffrance devant moi? Comment Dieu va-t-il justifier le mal devant moi? Comment Dieu va-t-il justifier l'horreur devant moi? Et on voit avec toutes les actualités internationales, beaucoup de personnes ont des choses à reprocher à Dieu. Comment Dieu va-t-il justifier ce que j'ai vu ou ce que j'ai vécu, moi, dans ma vie? Et peut-être c'est comme ça que vous imaginez votre rencontre avec Dieu, finalement. Mais ce matin, ce que j'aimerais vous proposer, c'est de présupposer que la manière dont la Bible, dont la parole de Dieu décrit Dieu, est la bonne. Et de présupposer que la manière dont la Bible et la parole de Dieu décrivent la condition humaine de pécheur est la bonne. Et alors si on présuppose ça, la question essentielle pour vous et moi ce matin, c'est comment se tenir dans la présence de Dieu alors que nous sommes pécheurs lorsqu'il va venir exercer son jugement. Et je crois que le texte de ce matin, les chapitres 11 à 13 de l'Exode, répondent à cette question. Répondent à cette question avec un seul mot, un agneau. Et je vous propose de voir ces trois chapitres et cette réponse qui tient en un seul mot. On va voir ces trois chapitres en trois points, un point par chapitre, facile à retenir. Trois points qui vont suivre un peu la structure du texte. Les trois chapitres, le chapitre 11, le 12 et le 13, commencent par l'Éternel dit, ou l'Éternel parla, ou l'Éternel transmis, en fonction de la traduction que vous avez. Et on va suivre cette structure ce matin. Premier point, l'Éternel dit, vous serez jugé. Chapitre 11. Deuxième point, l'Éternel dit, vous serez épargné. Chapitre 12. Troisième point, l'Éternel dit, souvenez-vous. Chapitre 13. Et donc, on commence par le premier point, l'Éternel dit, vous serez jugé. Chapitre 11, verset 1, l'Éternel dit à Moïse, « Je vais encore faire venir un fléau pour frapper le Pharaon et l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici, et même il vous chassera définitivement de son pays. » Alors l'Éternel demande à Moïse d'aller annoncer ça à Pharaon, ce dixième fléau qui va s'abattre sur lui. Donc Moïse se rend à la rencontre de Pharaon et il lui dit, voici ce que l'Éternel déclare. Au milieu de la nuit, j'irai, je parcourrai l'Égypte, et tout fils aîné dans ce pays mourra, depuis le fils aîné du Pharaon qui est sur le trône jusqu'à celui de la servante qui fait tourner la meule, ainsi que tout premier-né du bétail. De grands cris s'élèveront dans tout le pays, comme il n'y en a jamais eu et comme il n'y en aura plus de semblables. Mais chez les Israélites, on n'entendra pas même un chien aboyer contre un homme ou une bête. Vous saurez ainsi que l'Éternel fait une distinction entre l'Égypte et Israël. Alors tous tes hauts fonctionnaires qui t'entourent viendront me trouver et se jetteront à mes pieds en suppliant. Va-t'en, toi et tout le peuple qui marche à ta suite. On y est. Dieu, l'Éternel, celui qui est le grand Je suis, a annoncé à Pharaon le terrible fléau qui va s'abattre sur lui et sur toute l'Égypte, le dixième fléau. Il a même annoncé les conditions dans lesquelles les Israélites vont vivre la libération. Le dernier fléau, qui est annoncé ici au chapitre 11, au début du chapitre 11, va être déclenché seulement à la fin du chapitre 12. Et entre ces deux étapes, Dieu donne à Moïse les instructions qui permettront aux Israélites de rester à l'abri de la mort que va causer ce fléau. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce fléau ? Première chose, Dieu dit, j'irai et je parcourrai l'Égypte. Verset 4. Contrairement aux neuf fléaux qui ont précédé, cette fois l'accomplissement se fera par l'Éternel lui-même. Pas par l'intermédiaire d'un bâton, pas par l'intermédiaire d'une intervention humaine, comme Moïse, pas par l'intermédiaire d'une intervention naturelle. Seulement Dieu qui va parcourir le pays d'Égypte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire parcourir ? Juste parcourir ? Dieu vient juste se balader au milieu du pays ? Eh bien non, il va parcourir et causer la mort. Et tout à coup, là, je ne sais pas pour vous, mais la présence de Dieu, le fait que Dieu veuille habiter parmi son peuple, provoque plus la même réaction, le même engouement. Parce que Dieu vient et cause la mort. La mort de qui ? Les premiers-nés de chaque famille égyptienne. Les premiers-nés de chaque famille égyptienne, peu importe le statut social. Depuis le fils aîné de Pharaon qui est sur son trône, jusqu'à celui de la servante qui fait tourner la meule. À l'époque, c'était le rang le plus bas de la société. Donc on parle bien de toute classe sociale de l'Égypte. Tous vont perdre le premier-né. Alors Dieu va juger le pays d'Égypte pour libérer son peuple, mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi le premier-né ? Pourquoi le premier-né de chaque famille ? Et moi, j'aimerais proposer deux éléments de réponse. Peut-être un premier élément politique, plus politique, sociologique. Et puis un deuxième élément plus théologique. Premier élément, qu'est-ce qu'étaient les premiers-nés d'une famille à l'époque dans le Proche-Orient ancien ? C'était ceux sur qui tout l'avenir de la famille était basé. Donc, si on touchait au premier-né d'une famille, c'est toute la communauté, en fait, qui était touchée. Le jugement s'abat sur toute l'Égypte, par les premiers-nés. Et puis une raison peut-être un peu plus théologique, si on se souvient du chapitre 4 de l'Exode, verset 23, l'Éternel a dit « Je te l'ordonne, Pharaon, laisse aller mon fils, donc Israël, le premier-né de Dieu, pour qu'il me rende un culte. Puisque tu refuses, je ferai périr ton fils aîné. » Finalement, là, le dixième fléau, l'accomplissement de ce que Dieu avait annoncé au Pharaon, dès le début de leur confrontation, dès le début de leur bras de fer, où Pharaon a résisté, Dieu avait déjà annoncé la sentence. L'Éternel dit, vous serez jugés. Il va exercer son jugement sur l'Égypte, jugement terrible. De grands cris s'élèveront dans tout le pays comme il n'y en a jamais eu et comme il n'y en aura plus de semblables. Ça fait froid dans le dos. On ose imaginer ces cris stridents qui déchirent l'air. Des cris tels qu'il n'y en a jamais eu, qu'il n'y en aura jamais. Et ces cris qui viennent remplir d'effroi chaque habitant de ce pays. Et de l'autre côté, chez les Israélites, les chiens n'aboient même pas. Signe que tout est calme, tout est paisible, tout est tranquille. L'Éternel annonce une distinction entre les Israélites et l'Égypte. Pourtant, si on connaît un peu l'enseignement biblique qui précède l'Exode, tous sont pécheurs. Tous se sont détournés de Dieu. Tous veulent être leur propre Dieu. Et tous méritent la mort. D'ailleurs, l'Éternel vient juger. L'Éternel vient parcourir l'Égypte. Et on va voir dans la suite du texte qu'il y a bien un mort dans chaque maison de l'Égypte. Maison égyptienne ou maison israélite. Il y aura un mort dans chaque maison. Mais pas forcément une mort humaine. Alors, je ne sais pas ce que cette distinction provoque chez vous. Peut-être qu'elle provoque une incompréhension. Et je peux comprendre. Pourquoi Dieu a choisi Abraham pour lui donner une descendance qui serait son peuple ? Pourquoi il lui a déclaré que tous les peuples de la terre seraient bénis à travers lui et sa descendance ? Et je pense qu'au fond de nos cœurs, tortueux, des fois ça coince un petit peu. Parce qu'on aurait préféré une bonne explication où il y a ceux qui méritent et il y a ceux qui ne méritent pas. Comme ça, une fois de plus, on réussirait à mettre l'être humain au milieu de notre problème. La base de notre solution. Si seulement on pouvait se passer de la grâce pour obtenir le salut par nos œuvres, par ce qu'on fait, par ce qu'on mérite. Parce qu'après tout, on n'a pas besoin de la grâce, nous on est capable. On a parlé des JO tout à l'heure. Je trouve souvent, quand on regarde des matchs, que ce soit de foot, basket, tennis, souvent, il peut m'arriver, à la fin d'une victoire ou d'une défaite, notamment quand, par exemple, Nadal perd, bientôt prendre sa retraite. Enfin bon, bref. Donc, notamment quand Nadal perd, on se dit, non, mais l'autre n'a pas mérité sa victoire. Bon, d'accord, il a la coupe. D'accord, il a un grand chelem, mais il ne l'a pas mérité. Nous, on aime qu'il y en a qui méritent, il y en a qui ne méritent pas. Et bien, je crois que nous, on ne mérite rien. Et qu'au centre du plan de Dieu, il y a Dieu qui fait grâce à l'humanité. Ou plutôt, si, on mérite quelque chose. Comme les Israélites, comme les Égyptiens. En tant que pécheurs, on mérite la mort. Mais Dieu, dans sa grâce, a décidé, par un plan merveilleux qui se déploie tout au long de l'histoire biblique, d'apporter le salut à l'humanité. La grâce de Dieu. Et on continue avec nos amis David et Daniel. Daniel va toujours pas, n'est pas en pleine confiance. David, lui, toujours très confiant. Alors Daniel lui dit, David, toi, t'es vraiment toujours aussi serein par rapport à la venue et la présence de l'Éternel ? David lui dit, bien sûr, notre Dieu est tout-puissant, il va nous libérer. T'es pas serein, toi, Daniel ? Bah non, toujours pas. Tu te rends compte ? Des cris comme on n'en a jamais entendu ? Oui, c'est vrai, Daniel. Mais n'oublie pas, il nous protégera de la mort. Nous sommes son peuple, son fils premier-né. Je sais bien, David, mais comment ? Comment on va pouvoir passer à travers le jugement de la présence de Dieu ? Comment tenir ? Après tout, nous aussi, on est pécheurs. Alors comment on va tenir dans la présence de Dieu ? Et c'est ce qu'on va voir maintenant avec notre deuxième point. L'Éternel dit, vous serez épargnés. On va voir si ça apporte une réponse à Daniel. L'Éternel dit, vous serez épargnés. La Pâque, c'est un événement majeur du développement du peuple d'Israël. Certaines fois, on enseigne un peu de manière isolée, mais en réalité, la Pâque, elle fait partie du dixième fléau. Dixième fléau dont on va voir le déclenchement un petit peu plus tard, à la fin du chapitre 12. Mais avant, j'aimerais lire les 13 premiers versets du chapitre 12, où l'Éternel s'adresse à Moïse. Où l'Éternel définit le cadre du repas de la Pâque, de cette cérémonie, et où il en explique le sens. Donc les 13 premiers versets qu'on va lire maintenant. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron en Égypte. Il leur dit, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Donnez à toute la communauté d'Israël les instructions suivantes. Le dixième jour de ce mois, que chaque maison ou chaque famille se procure un agneau. Si dans une maison on est trop peu nombreux pour manger un agneau, qu'on s'associe à la famille voisine, la plus proche, en tenant compte du nombre de personnes, et l'on choisira l'agneau en fonction de ce que chacun peut manger. Vous prendrez un agneau ou un chevreau sans défaut, un mâle âgé d'un an. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Ce jour-là, tout l'ensemble de la communauté d'Israël immolera ses agneaux à la nuit tombante. On prendra de son sang et l'on en badigeonnera les deux montants et le linteau de la porte des maisons où il sera mangé. On en retirera la viande et on la mangera cette nuit-là avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez rien qui soit à moitié cuit ou bouilli dans l'eau. Tout sera rôti au feu avec la tête, les pattes et les abats. Vous n'en garderez rien pour le lendemain. S'il reste quelque chose jusqu'au lendemain, vous le brûlerez. Vous le mangerez à la hâte, prêt à partir, la ceinture nouée aux reins, les sandales aux pieds et le bâton à la main. Ce sera la Pâque que l'on célébrera en l'honneur de l'Éternel. Je parcourrai l'Égypte cette nuit-là et je frapperai tout premier-né dans le pays, homme et bête. Et j'exercerai ainsi mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, ainsi le fléau destructeur ne vous atteindra pas lorsque je frapperai l'Égypte. Alors quand Daniel s'interroge comment se tenir dans la présence de Dieu, quand on se pose la question comment se tenir dans la présence de Dieu, nous pécheurs, lorsqu'il vient exercer son jugement, la réponse, un agneau. Il y aura bien un mort par maison dans tout le pays d'Égypte, mais dans certaines maisons, ce sera un agneau. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la Pâque ? Qu'est-ce qu'on peut dire de cet agneau qui protège les Israélites de la mort ? J'aimerais vous proposer de relever quatre choses ce matin. Première chose, Dieu est satisfait. le verset 13 qu'on vient de lire, « Je verrai le sang et je passerai par-dessus les maisons où vous vous trouverez. » En fait, ce sang était la preuve que dans cette maison, il y a déjà eu un mort. Il y a déjà eu un décès. C'est le sang de l'agneau qui satisfait Dieu, qui satisfait à sa justice. La sentence du péché, c'est la mort. Et quand Dieu descend pour juger, il descend pour accomplir la sentence de la mort. Il vient exercer son jugement sur tous les pécheurs, mais en voyant le sang sur les linteaux, au lieu de causer la mort, il repart en paix. Alors on pourrait se dire, oui, mais le sang, il a juste servi à identifier qui est israélite, qui est égyptien. Mais dans ce cas-là, il aurait demandé de la peinture rouge. Mais non. Le sang est un signe qu'un sacrifice a déjà été fait. Ainsi, le fléau destructeur ne vous atteindra pas lorsque je frapperai l'Égypte. Dieu n'est pas en train de minimiser le péché des Israélites. S'il descend et s'il parcourt l'Égypte, eux aussi vont mourir. Sauf si le sang est déjà versé, celui d'un agneau. Alors Dieu est satisfait. Sa justice est satisfaite. Deuxième chose qu'on peut relever, Dieu est satisfait. Deuxième chose, Dieu met son peuple en sécurité. Le peuple est en sécurité, il ne risque pas la mort en restant bien sûr dans leur maison, sous le sang de l'agneau qui a été mis sur les linteaux. Donc deuxième point, Dieu met son peuple en sécurité. Troisième chose qu'on peut relever de ces 13 versets du chapitre 12, Dieu offre un substitut parfait et sur mesure. Et là, vous pourrez, cet après-midi, en rentrant chez vous, regarder un petit peu toutes les mesures qu'il faut prendre par rapport à cet agneau. Entre les versets 3 et 5, tous les critères de cet agneau. Un agneau à choisir par maison, par famille. Il y a même des recommandations si la famille est trop nombreuse ou pas assez. À combien de personnes l'agneau peut-il subvenir? Tout est calculé de manière très précise. Parce que c'est un substitut parfait. Ils ne peuvent même pas garder les restes parce que l'agneau, il a une seule vocation. Il n'est pas là pour les nourrir, il est là pour mourir pour un nombre précis de personnes. Cet agneau pascal n'avait qu'un seul but, être un substitut sur mesure pour satisfaire à la justice de Dieu et pour couvrir le péché des Israélites. Dieu est satisfait, Dieu met son peuple en sécurité, Dieu offre un substitut parfait et sur mesure. Puis dernière chose que j'aimerais relever ici, Dieu sauve. Les Israélites, ils prennent ce repas assez tard, ils sont habillés, ils ont la ceinture nouée au rein, autrement dit, ils sont prêts à partir. Pour rester dans les images sportives, ils sont sur les starting blocks. Et ils doivent manger à la hâte. Ils doivent être prêts pour le changement. Le changement, c'est maintenant pour les Israélites. Mais ce n'est pas un simple changement. Après ce soir, plus rien ne sera comme avant. Après ce soir, ils ne seront plus esclaves. Ils seront en route vers la terre promise. Après ce soir, ils seront délivrés. La délivrance de leurs conditions. Ils seront délivrés de la délivrance de ce territoire. Après ce repas-là, le peuple sera sauvé de son esclavage en Égypte. Plus rien ne sera comme avant. Alors, pour répondre à la question « Comment tenir dans la présence du Dieu Saint ?» un agneau. Mais peut-être que là, vous et moi, on va avoir un petit problème. Est-ce qu'on peut sérieusement croire qu'un agneau puisse être un sacrifice valable pour une vie humaine entière ? Je crois que là, on peut dire que l'agneau de la Pâque qui a été vêtu par le peuple d'Israël en Égypte, il pointe vers un acte de rédemption bien plus grand que ça. Plus de 1000 ans plus tard, Jean-Baptiste, était au bord du Jourdain, va s'écrier en voyant une personne arriver vers lui. « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. » Cette personne, c'est Jésus. Jésus est l'agneau pascal parfait. Pour reprendre nos quatre points, par le sacrifice de Jésus, la justice de Dieu est pleinement satisfaite. Par le sacrifice de Jésus, on peut se tenir en sécurité devant Dieu, couvert par son sang. Son sacrifice est un substitut parfait pour toute vie humaine, entachée par le péché. Et par son sacrifice, nous sommes sauvés de la puissance du péché et de la mort. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Alors c'est le temps pour nous maintenant de retrouver une dernière fois Daniel et David. Après j'arrêterai mon métier de théâtre. Et pour cette discussion entre Daniel et David, c'est là que je reconnais que je ne l'ai pas inventé. Je l'ai entendu d'une intervention d'un théologien qui s'appelle Donald Carson. Du coup je l'ai traduit avec mes mots, hein. Mais voilà, cette discussion entre deux Israélites n'est pas de moi. Mais on va continuer à les appeler Daniel et David pour suivre l'histoire avec eux. Donc on est à la veille du repas de la Pâque. Et on retrouve Daniel toujours inquiet. David, pas trop inquiet par rapport à ce qui va se passer ce soir. David lui dit, tu commences à me fatiguer. Moi je suis pas inquiet. Dieu nous a dit comment nous préparer. T'as pas besoin de t'en faire. De toute façon, t'as bien immolé l'agneau. Tu as bien pris son sang. T'en as mis sur les linteaux de ta maison. Alors n'oublie pas de manger le repas de la Pâque en famille. Tiens-toi prêt. Le grand départ arrive. Daniel dit, bien sûr que j'ai fait tout ça. Je suis pas bête. Mais quand je pense à cette nouvelle menace, les fils premiers-nés qui risquent d'être tués. Toi, David, c'est pas pareil. Des garçons, t'en as trois. Mais moi, j'en ai qu'un. Alors, je sais ce que Dieu a dit. Et j'ai fait tout comme il a dit. Mais c'est plus fort que moi, j'ai peur. Et j'attends qu'une chose, c'est que ce soit terminé. David, il en met une couche. Bref, moi, je suis prêt. Et j'ai confiance dans les promesses de Dieu. Alors, je ne sais pas si toi, tu es plutôt un Daniel ou un David. Un Daniel qui doute, un David qui a de l'assurance. Et j'aimerais vous poser une question. Ce soir-là, à votre avis, l'Éternel traverse le pays pour frapper les premiers-nés qui se trouvent en Égypte. La question, c'est qui perd son fils, Daniel ou David? Aucun des deux. Pourquoi aucun des deux? Parce qu'aucune famille israélite cette nuit-là n'a été épargnée sur la base de l'intensité de sa foi ou de sa clairvoyance. Les familles israélites ont été épargnées sur la base du sang de l'agneau. La seule chose qui nous permet de nous tenir dans la présence de Dieu, le Dieu qui veut demeurer avec nous quand il vient exercer sa justice, c'est le sang versé de Jésus à la croix pour nos péchés. Le sang de l'agneau de Dieu qui est venu ôter le péché du monde. C'est pas l'intensité de notre foi. C'est pas l'intensité de notre foi qui nous sauve, c'est l'objet de notre foi. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Avec Aurélie, ma femme, on est persuadés tous les deux et on croit très fort au Doliprane. On a la conviction que c'est un médicament qui soulage de la fièvre. On en est sûr, on le croit. C'est un médicament efficace. Et pourtant, quand on prend du Doliprane, on ne le prend pas tout à fait de la même manière. Aurélie, elle prend le Doliprane en pleine confiance. Dans une heure, la fièvre aura commencé à tomber. On verra ce qui se passera après. Alors que moi, quand je prends du Doliprane, Je me dis, j'espère que j'ai rien. Et puis je prends ma température toutes les 10 minutes. Et au bout d'une heure, quand elle est tombée, je fais, ah, je le savais. Le Doliprane fonctionne. Parce que c'est pas sur la base de l'intensité de notre foi dans l'efficacité du Doliprane que la fièvre tombe. C'est sur la base du Doliprane lui-même. Ce qui fait baisser la fièvre, c'est le Doliprane et les molécules qu'il compose. Alors, je dis, il y a des limites à cette image, hein, mais j'espère que vous saisissez un peu la nuance, ce que je voulais expliquer. Pour remettre un peu une couche, Charles Lecter a écrit « La foi ne peut pas poser son regard sur elle-même, elle contemple plutôt l'objet de la foi, qui est le Seigneur Jésus-Christ. » La foi ne peut pas poser son regard sur elle-même, elle contemple plutôt l'objet de la foi, qui est le Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel dit épargner. Troisième partie, l'Éternel dit souvenez-vous. Le dixième fléau s'abat sur l'Égypte. De grands cris furent poussés dans toute l'Égypte car il n'y avait pas une maison où il n'y eut un mort. En pleine nuit, le pharaon convoqua Moïse et Aaron et leur dit « Levez-vous, partez de chez nous, vous et les Israélites, et allez rendre un culte à l'Éternel comme vous l'avez demandé. » Un peu plus tard, à la fin du chapitre 12, voilà ce qu'on peut lire. Non. Tous les Israélites se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. C'est en ce jour précis que l'Éternel fit sortir les descendants d'Israël d'Égypte comme une armée en bon ordre. Ça y est, le peuple d'Israël est libéré de son esclavage. Maintenant, Dieu ordonne que cette libération soit commémorée par plusieurs gestes pour se souvenir. Il y a des fêtes récurrentes, vous pourrez regarder au chapitre 13, qui ont plus ou moins lieu en même temps. Le peuple d'Israël célèbre la Pâque, la fête des pains sans levain. Il y a même un autre geste de souvenir et de commémoration, qui est la consécration des premiers-nés. Et chacun de ces événements commémoratifs a un objectif commun, celui d'amener les générations futures à s'interroger sur la signification de ces fêtes. Verset 8 du chapitre 13. En ce jour-là, vous expliquerez à vos enfants la signification de cette fête. Verset 14. Lorsque vos enfants vous questionneront en vous demandant que signifie cela, vous leur répondrez, c'est par sa puissance que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte où nous étions esclaves. L'objectif est d'amener les générations futures à s'interroger sur la signification de ces commémorations. Et c'était nécessaire pour le peuple d'Israël. C'était nécessaire que l'Exode continue à être une réalité vivante pour toutes les générations. L'Exode fait partie de leur histoire. Et de leur histoire la plus importante, celle qu'il ne faudrait jamais oublier. D'ailleurs, au chapitre 20, avant de donner sa loi, avant de communiquer ses 10 paroles au peuple, Dieu dit « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte du pays où tu étais esclave. » Alors quand le peuple de Dieu commémorait la Pâque, il célébrait la Pâque, les générations d'après participaient à cet acte, et cet acte de la Pâque façonnait l'identité du peuple d'Israël. Et la Pâque, elle a été célébrée comme ça très longtemps. Elle a été célébrée comme ça 1500 ans. 1500 ans plus tard, Luc, dans son évangile, décrit une fête de la Pâque un petit peu particulière. Le jour de la fête des pains sans levain où on devait tuer l'agneau de la Pâque arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant « Allez nous préparer le repas de la Pâque. » De la même manière, en fait, que l'agneau de l'Exode, comme on a vu tout à l'heure, il annonçait une réalité bien plus grande. Un nouvel Exode en Jésus-Christ, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Eh bien, en fait, les fêtes des pains sans levain, la Pâque, pointaient vers le repas que Jésus a institué pour ses disciples. Ce repas, on l'appelle la scène, le repas du Seigneur. Et l'Éternel dit, souvenez-vous. En prenant la scène chaque dimanche, ou toutes les deux semaines, ou toutes les trois semaines, en tout cas en ritualisant le fait de prendre la scène, on nous rappelle du sacrifice de Jésus. On se rappelle du sacrifice de Jésus. L'agneau pascal, on se rappelle de son sacrifice à la croix. La scène, le pain et le vin, nous aident à nous rappeler qu'en Christ, nous sommes morts au règne du péché. On ne vit plus comme des esclaves du péché et de la mort, mais on vit une véritable liberté en Jésus-Christ. Au moment où on partage le pain et le vin, on se souvient du jour de la libération. Comme les Israélites commémoraient le jour de leur délivrance, nous on se rappelle qu'on peut marcher sur le chemin de la délivrance en tant qu'enfant de Dieu, uniquement par le sang de l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Parce que finalement, la seule réponse qu'on peut apporter sur comment se tenir dans la présence de Dieu lorsqu'il vient exercer son jugement, c'est pas un agneau, c'est l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. Voilà la seule réponse à apporter à la question « Comment se tenir dans la présence de Dieu lorsqu'il vient exercer son jugement ?» Alors l'application est toute trouvée. Je propose de mettre ça en pratique. Tout de suite, en partageant le repas du Seigneur ensemble. Si pour vous, ce que j'ai dit maintenant sur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, c'est une réalité, alors ce repas, il est pour vous. Si vous croyez que Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, est mort et ressuscité pour le pardon de nos péchés, que nous communions avec lui, que c'est par son sacrifice que nous pouvons nous tenir dans la présence de Dieu, ce repas, il est pour vous. Si vous ne croyez pas à cela, je vous encouragerai à laisser passer les éléments et à repasser dans votre tête cette question. Comment se tenir dans la présence du Dieu Saint lorsqu'il vient exercer son jugement ?